Réplique sur François Mitterrand avec Éric Roussel et Michel Vinocq. Septembre 1994, c'est-à-dire quelques mois avant que s'achève le second septennat de François Mitterrand, Paul Thibault, l'ancien directeur de la revue Esprit, publiait dans Le Débat un article intitulé « L'homme au-dessus des lois » dont j'extrais ces quelques lignes. Entre l'intensité de la passion pour le pouvoir et le résultat d'une dizaine d'années de pouvoir sans partage, le contraste est affligeant. Si l'on met à part le discours au Bundestag, réaction apparemment convaincue et certainement pertinente au chantage soviétique, Mitterrand présente un bilan essentiellement passif. Il a enregistré et utilisé à son profit la mort de la gauche et le déclin de la France, sans aller jusqu'à penser ces événements et à essayer de remplacer les capacités défaillantes. Les nouveautés dont on critique Mitterrand, décentralisation, intégration européenne, prépondérance du droit international, rigueur monétaire, ont en commun d'être des entraves à la capacité de gouverner. Mitterrand aime le pouvoir, non le gouvernement. 22 ans ont passé. De nombreux livres sont parus sur celui à qui son habileté manœuvrière avait valu d'être appelé le Florentin. Se détachent de cette abondante littérature deux grandes biographies écrites respectivement par Éric Roussel et Michel Vinocq. À leurs auteurs, je demanderai donc si, après enquête et réflexion faite, ils réfutent, ils nuancent ou ils confirment le jugement émis à vif par Paul Thibault. Éric Roussel.
Moi, je nuancerai ce jugement. C'est toujours difficile de porter un jugement sur l'action de quelqu'un qui vient de disparaître. Et en réalité, pour porter un jugement valable, il faut quand même un certain recul. Il n'est même pas sûr que nous l'ayons aujourd'hui. Ce qu'on peut, c'est essayer de voir les choses peut-être plus précisément. Il y a une chose vraie dans ce que dit Paul Thibault. C'est le fait que Mitterrand se considérait comme au-dessus des lois. Ça, je crois que c'est vrai. J'ai le souvenir d'une conversation que j'avais eue avec Maurice Grimaud, le préfet de police de mai 68, que je connaissais bien, et qui me disait, au fond, il a réussi cet exploit d'occuper, finalement, la seule fonction dans l'État qui, sinon en droit du moins en fait, lui donnait la possibilité d'agir au fond selon son bon plaisir. Ça, je crois que c'est vrai. Mais il avait quand même un rapport paradoxal avec la loi, parce que cet homme qui se considérait comme au-dessus des lois était par certains côtés un légiste, et notamment dans le domaine international. Alors pour en arriver au bilan, moi je crois que tout ce que dit Paul Thibault, il y a un certain nombre de choses vraies dans ce que dit Paul Thibault. C'est vrai que le fait que Mitterrand n'a jamais assumé ce virage de la rigueur de 1983, donc ça n'a pas été sans conséquence, sans malentendu. Je crois quand même que les points forts de son action finalement se situent plutôt sur le plan international, sous réserve évidemment du fait que ce qu'il a fait en matière européenne, qui est à mon avis très important, n'est pas encore complètement abouti, puisque la création de l'euro impliquait une construction politique qui, pour le moment, n'a pas encore eu lieu. Donc c'est difficile de porter un jugement. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça ne se fera pas? Selon que ça se fera ou que ça ne se fera pas, le jugement que l'on portera sur François Mitterrand sera, à mon avis, différent.
Michel Vinocq.
Le texte de Paul Thibault que vous avez lu, je m'en souviens très bien. C'est un des textes les plus féroces qui ait été écrit du vivant de François Mitterrand. Je me souviens que ce texte avait provoqué l'indignation de Jean Lacouture.
Oui, qui a publié d'ailleurs dans Le Débat un texte pour équilibrer le réquisitoire de Thibault.
Mais je vous l'avoue, à l'époque, j'avais trouvé le texte de Thibault excellent. Pourquoi? Parce que nous étions, il faut voir le contexte, c'était le moment où la gauche est vraiment en capitulade, elle a perdu, elle a été écrasée aux élections de 93, et que François Mitterrand apparaît comme un souverain lointain de ce problème de la gauche elle-même, et puis surtout, il continue sa guerre contre Michel Rocard, en 94 précisément, Michel Rocard, qui est premier secrétaire du Parti Socialiste, est à la tête d'une liste pour les élections européennes, et voilà que Mitterrand, dans sa guerre continue contre Michel Rocard, va susciter une liste concurrente en demandant à Bernard Tapie de la prendre, et le résultat est que Bernard Tapie va faire, donc sur la liste radicale, va faire un score suffisamment fort, 12%, pour amoindrir considérablement le score de Michel Rocard. Et on peut dire qu'à ce moment-là, c'est fini pour Michel Rocard, car il va démissionner de son poste. Et le dernier mot, par conséquent, dans ce duel à mort entre ces deux hommes, eh bien, c'est Mitterrand qui l'a eu. Donc, Paul Thibault écrit un texte, vous voyez, dans un certain contexte, et il faut le dire, c'est un texte à peu près sans nuance. Il reprend une idée forte qui circulait et qui circule encore parmi les ennemis de Mitterrand, c'est que Mitterrand n'est véritablement inspiré que par une chose, le pouvoir, le conquérir, le garder. Or, je crois, et je suis d'accord avec Éric Roussel, qu'il faut nuancer cela, parce que Mitterrand n'est pas unidimensionnel, bien sûr qu'il est un ambitieux, il a été un ambitieux à la conquête du pouvoir, mais tout de même, il avait quelques convictions, et il a fait un certain nombre de choses dont on peut le créditer.
Alors, je reprends une autre réflexion de Paul Thibault dans son article. Il dit « La présidence a permis à Mitterrand d'accomplir son narcissisme, de mettre la politique de la gauche et de la France au service d'une image que journalistes, écrivains et caméramans n'arrêtent pas de scruter sans être conscients qu'ils répandent leur propre fascination. » Régis Debray, dans « Loué soit nos seigneurs », va un peu dans le même sens. Là où De Gaulle parlait de lui, de la France, Mitterrand parlait de lui-même. Dès 1994, il fit durer une année pleine, la cérémonie des adieux, transformant la chronique du temps en journal intime. Il nous intéressa à sa vie de famille, à son adolescence, à ses rendez-vous, à ses vieux amis. Il se panthéonisait à petites touches. Si je lis ces deux textes, Éric Roussel, c'est parce que dans votre biographie, et là, vous remontez, si vous voulez, à l'antipathie réciproque de De Gaulle et de Mitterrand, mais vous faites une analyse de leur attitude, de leur comportement pendant la guerre, et vous dites De Gaulle, toutes ces missives portent témoignage d'une préoccupation quasi exclusive, la France et la conception qu'il se fait de sa grandeur. Le François Mitterrand de ces années-là, donc nous ne sommes pas en 1994, nous sommes en 1942-43, semble à l'inverse si obnubilé par son personnage et l'éventualité pour lui de jouer un rôle qu'il en oublie presque les données immédiates, le cours de la guerre, l'évolution des forces en présence, les perspectives probables d'avenir. Donc il y a quand même une sorte de continuité entre le Mitterrand du début et le Mitterrand de la fin, autour de ce que Thibault appelle son narcissisme.
C'est vrai qu'il y a un côté narcissique chez Mitterrand, c'est très évident. J'ai eu la chance de pouvoir disposer d'une correspondance qui avait déjà été en partie utilisée par Pierre Péan. Péan avait utilisé la partie politique, mais il y avait toute une partie intime qui était intéressante et qui témoigne de ce narcissisme absolument incroyable. Et c'est même assez surréaliste de voir que pendant, en pleine guerre, en 42-43, alors qu'il se trouve à Vichy, il est surtout préoccupé par son propre itinéraire et accessoirement par ses amours, parce que ça compte beaucoup. On ne peut pas parler de Mitterrand sans parler aussi de sa vie privée. Il ne s'agit pas de la fracturer, d'être indiscret. Ça fait partie de son narcissisme aussi. Et là, ça apparaît très nettement. Alors, cela dit, le personnage, à cette époque, n'était pas encore complètement, n'avait pas encore atteint une pleine maturité. Mais c'est certain que le fait d'être aussi narcissique l'a rendu aveugle, à mon avis, pendant cette période de la guerre, alors qu'il était à Vichy, à certaines réalités, c'est absolument évident. Par exemple, il parle du retour au pouvoir de Laval, comme quelque chose, au fond, qui peut avoir des aspects positifs. Dans le même ordre d'idées, il y a un passage stupéfiant dans lequel il place tous ses espoirs dans le service d'ordre légionnaire. Alors, le service d'ordre légionnaire, c'est ce qui va donner naissance à la milice. C'était pas anodin pour en faire partie. Il fallait prêter un serment, disant je jure de combattre la lèpre juive, les francs-maçons, la dissidence gaulliste. Enfin, c'était quand même quelque chose de très marqué.
Michel Hinocq.
Incontestablement, son narcissisme est très fort. Ça l'amène à une certaine indifférence vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Si l'on parle de la période de la guerre, il est tout de même étonnant qu'il ne se soit pas aperçu qu'il y avait un statut des Juifs, un double statut des Juifs, en 40 puis en 41, et ainsi de suite. Il y a chez lui un désir de se construire une personnalité avec des masques successifs. Il y a une mise en scène de sa propre personne. Par exemple, le fait que il méprise l'argent et qu'il n'a jamais un sou dans sa poche. Ce qui contraint évidemment ses convives quand ils vont au restaurant à payer pour lui. Il y a ainsi un désir, n'est-ce pas, d'apparaître comme un personnage. Il se construit un personnage qui est un personnage de séduction. Et Dieu sait s'il ne manque pas de séduction en raison de son physique, de sa culture. Bon, il est très cavaleur, disons, il a beaucoup de succès auprès des femmes, et tout cela fait de lui un personnage de roman, comme on l'a dit, c'est une banalité de le répéter, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a chez lui cet aspect, n'est-ce pas, qui le différencie tellement, comme le disait Régis Debray, avec le général de Gaulle.
Oui, alors, avant d'en venir aux métamorphoses du personnage, donc de Vichy, la Résistance, le ministre de la 4e République, puis le président de la République socialiste, du moins pour un temps. Je voudrais m'arrêter encore une fois à cette question, à la fois de la passion pour le pouvoir, et sinon peut-être du narcissisme, mais de l'égotisme de François Mitterrand. Vous citez une confidence très intéressante, Michel Hinocq, dans votre biographie, sur le rapport de Mitterrand au livre. C'était un homme de culture, il se promenait dans les librairies, enfin, il affichait cette dilection pour la lecture. « Je suis heureux de savoir que les livres sont là, prêts au dialogue, au conseil, de n'avoir qu'une main à tendre pour trouver Pascal ou les mémoires d'outre-tombe, des moralistes comme La Rochefoucauld, La Bruyère ou Champfort, pour relire une page de Claudel, généralement de connaissances de l'Est, quelques poèmes d'Aragon ou de Saint-Jean Perse, une page de Gide de Valéry. » Et son style est très littéraire dès ses premiers textes, son goût pour les humanités, pour la culture classique et ce qui les différencie profondément, notamment de Michel Rocard, hein, c'est peut-être aussi ce qui fonde leur hostilité, Michel Rocard sa passion pour l'économie et les sciences sociales, Mitterrand sa passion pour les humanités, mais justement, on a l'impression que c'est bon pour lui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est bon pour lui, parce que quand même, Jack Lang a inauguré un certain type de politique culturelle approuvée par Mitterrand. Je me souviens de la lettre à tous les Français. Il y avait un débat qui agitait le monde intellectuel sur la culture. Mitterrand tranche. Jacques Lang a raison. Tout est culture. Si tout est culture, nous sommes dans le registre de l'indiscrimination. Le ministère de la Culture est devenu le ministère de l'indiscrimination. On ne choisit pas. Choisir, c'est risquer de succomber à l'élitisme. J'entendais Fleur Pellerin, il y a quelques mois, dire, quand on l'interrogeait sur ses goûts, « Je ne suis pas le ministre de ma culture, mais de la culture. La culture, c'est tout. » Et je pense à ces propos d'Anna Arendt à la fin de son article sur la crise de la culture. « Nous devons nous souvenir en toute occasion de ce que, pour les Romains, une personne cultivée devait être, quelqu'un qui sait choisir sa compagnie parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passé. » Mitterrand choisissait très bien sa compagnie, mais c'était pour son usage personnel. Jamais il ne s'est dit que sa politique devait en quelque sorte poursuivre ce mouvement, l'universaliser, l'inscrire, comme s'il s'agissait d'une simple préférence individuelle. Michel Hinocq.
Oui, c'est sûr, seulement la culture, sa culture littéraire en particulier, pouvait aussi servir une politique indirectement. C'est le général de Gaulle a pu dire que la meilleure qualité d'un chef d'État ou de quelqu'un qui commande, c'est la culture générale. Et il faut bien le dire, beaucoup de nos politiques n'ont pas ou ont perdu la culture générale que beaucoup de leurs prédécesseurs avaient. Mitterrand est un homme du passé, de la Troisième République, de la Quatrième République. Il y avait encore des gens, des hommes d'État ou des politiciens cultivés. Et je crois que cette culture, comme vous le dites, était peut-être à usage personnel, sans doute, mais elle lui a servi beaucoup. D'abord, elle lui a servi pour en imposer aux autres, qui étaient médusés par ses citations, etc. Vous faisiez allusion à Michel Rocard, qui lui savait très bien que sur ce terrain-là, il ne faisait pas le poids. Et vous connaissez le fameux mot, n'est-ce pas, qui, à la sortie du déjeuner de Conflans-Sainte-Honorine, entre Michel Rocard et François Mitterrand, l'un, Rocard, a pu dire que Mitterrand était nul, n'est-ce pas, en économie, quelle incompétence, et l'autre a pu dire à ses amis, quelle inculture. Bon, donc c'est sûr, n'est-ce pas, qu'il en a profité pour s'imposer lui-même comme personnage, comme je le disais tout à l'heure, mais je ne dirais pas que ça ne servait qu'à lui, ça pouvait servir...
Mais qu'il ait présidé à l'absorption du cultivé dans le culturel, et même au commencement, la liquidation de la culture générale à l'école, c'est un peu triste, étant donné précisément le monde qu'il aimait habiter, Éric Roussel.
Pour comprendre ça, il faut bien voir que c'est un personnage multiple. Sa culture d'origine était une culture vraiment de droite. On voit très bien dans ses lettres de jeunesse, les écrivains qui le touchent vraiment, qui pratiquent constamment, c'est Barrès, c'est Monterland. Monterland, les vit en forme de proue, il n'arrête pas de parler de... Bon, donc il vit presque, un peu par procuration dans ces années-là. Et il reste quand même assez marqué, même s'il s'est ouvert après ça à d'autres formes de littérature, parce qu'il avait une grande curiosité. Mais enfin, ses curiosités premières le poussent vers ses écrivains de l'entre-deux-guerres, plutôt de droite. On connaît son goût pour Chardonne, qui était son compatriote charentais. Mais il arrive au pouvoir. D'abord, il sait très bien, c'est un monarque. On a dit que c'était le dernier des Capétiens, c'est pas tout à fait faux. Et il sait que être accompagné par toute une, puis Napoléon, par les écrivains, par une sorte de légende, c'est important pour sa postérité. Donc je crois qu'il y pense. Et là, on retrouve son côté, disons, un peu caméléon. C'est quelqu'un qui devine très bien, disons, la modernité sous ses aspects les plus, quelquefois les plus contestables, et qui fait en sorte de l'épouser au
maximum. Oui, c'est ça. Voilà. Encore une fois, il était dépositaire d'un certain héritage, mais je le répète, la transmission de cet héritage ne semble pas avoir été son problème. Simplement, vous citez aussi, Michel Vinocq, une phrase de Jean d'Ormesson pour expliquer la fascination qu'exerce aujourd'hui encore François Mitterrand. Il aura été représentatif de tous les Français successivement. Les Français de droite, les catholiques, les vichysois, les résistants, les socialistes, les centristes, les communistes. Alors, épousons brièvement ce parcours. Qu'était Mitterrand au départ, et essayons de comprendre par là comment s'expliquent ces diverses métamorphoses. Le premier Mitterrand, comment le définiriez-vous, Michel Vinocq et puis Éric Roussel ?
Un jeune homme de droite qui est né dans une famille de moyenne bourgeoisie, à Jarnac, donc dans la Saintonge. Une famille conservatrice, catholique. Son père est dans diverses associations religieuses, comme la conférence de Saint-Vincent de Paul. Et lui a été élevé, éduqué dans des établissements religieux, comme le collège d'Angoulême. Et lorsqu'il vient à Paris pour faire ses études, sa mère a fait en sorte qu'il soit logé au 104 de la rue de Vaugirard, qui est un établissement religieux, où tous les soirs il se retrouve avec ses camarades catholiques. Donc au départ, il y a une sorte d'homogénéité, il n'y a pas de révolte de sa part, ni contre ses études, ni contre sa famille. Il est conformiste, c'est un jeune homme conformiste qui, tout naturellement, va, en devenant étudiant, épouser un certain nombre d'idées de droite, puisqu'il va militer bientôt aux Volontaires Nationaux, qui est une filiale des Croix de Feu du colonel Delaroque. Alors, on a dit à ce propos des choses tout à fait fausses, n'est-ce pas, qu'il était un adepte de l'Action française, certainement pas, qu'il avait été cagoulard, certainement pas, tout cela en raison d'un certain nombre de liens qu'il avait, d'amitié, de cousinage, etc., avec des personnes qui étaient effectivement des membres de ces organisations d'extrême droite, mais quant à lui, il a été, je dirais, jusqu'à son service militaire, assez conformiste, n'est-ce pas, dans ce que j'appellerais un étudiant catholique de droite, qui commence à écrire, qui écrit dans la revue de Montalembert du 104 de la rue de Vaugirard, et qui écrit des articles qui sont précisément dans cette lignée de droite conformiste, traditionnelle, catholique. Ajoutons à cela une dimension très importante pour la suite, je crois, qui est l'aide sociale, la politique sociale. Car Mitterrand a adhéré, comme son père du reste, n'est-ce pas, je disais qu'il était président de la conférence Saint-Vincent de Paul à Jarnac, eh bien, lui-même a été dans cette conférence Saint-Vincent de Paul, il a fait, si vous voulez, de l'action sociale catholique, et il a été éveillé par conséquent à cet aspect-là, qui deviendra ensuite, je crois, une des explications qui l'ont poussé vers la gauche et le socialisme.
Éric Roussel.
Oui, moi, il y a une chose qui me paraît très importante, c'est son engagement, auquel Michel Vinocq vient de faire allusion, du côté de Delaroque. Ça me paraît vraiment son engagement le plus significatif et le plus durable, d'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'il a dit, lorsque le mouvement Delaroque a été dissous par le gouvernement du Front Populaire et a connu une renaissance sous la forme du Parti Social Français, Mitterrand s'est réinscrit. Il l'a nié, enfin, ça n'est pas expliqué, mais enfin, on a les preuves maintenant de cette réinscription. Donc ça prouve quand même une adhésion profonde. Et autre signe, le premier poste professionnel qu'il a, il est journaliste, pigiste, mais enfin, quand même très régulièrement, à l'Écho de Paris. L'Écho de Paris, c'est le journal quasiment de la Roque, c'est le journal de la droite conservatrice de l'époque. Donc c'est quelque chose, à mon avis, de très important. Il faut pas oublier que dans le mouvement, dans ce qu'a représenté la Roque, bon, il y avait ce nationalisme catholique auquel Michel Midlac vient de faire allusion, mais il y avait aussi, et on l'oublie trop souvent, une certaine dimension sociale. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours marqué François Mitterrand. Il y a aussi une donnée sociologique sur laquelle je voudrais insister, qu'il ne faut pas oublier. C'est que Mitterrand était issu d'une famille, finalement, de la petite bourgeoisie provinciale. Et même si ça ne s'est jamais vraiment exprimé, on sent très bien qu'il y avait une sorte de rancœur vis-à-vis de ces grandes familles qui dominaient le négoce du cognac sur le plan local. Et qui regardait certainement de haut cette famille, un peu comme Mauriac qui avait ce complexe vis-à-vis des grands marchands de Bordeaux. Ça me paraît tout à fait évident, je ne sais plus si je le raconte dans le livre, mais on me l'a peut-être raconté depuis. Il se trouve que son frère Philippe, je crois, avait brièvement travaillé pour l'une des maisons, pour Martel ou Hennessy. Et François Mitterrand lui a amèrement reproché, il lui dit « tu as pactisé avec l'adversaire ». Il y a aussi la confidence qui est tout à fait étonnante, qui fait au président Giscard d'Estaing. Il lui dit « je vais vous confier un secret, le ressort de ma vie politique, j'ai voulu détruire la bourgeoisie française ». Alors bon, c'est peut-être mais enfin, ça traduit quand même quelque chose.
Oui, c'était le vinaigre contre le cognac. Le vinaigre, oui, parce que son père était vinaigrier, n'est-ce pas, et qu'il était catholique, tandis que le cognac, c'était évidemment tenu par les grandes familles protestantes des Charentes.
Oui, mais Chardon, c'était le cognac, et il aimait Chardon.
Oui,
donc,
d'ailleurs, Mitterrand le dit, ce sont des familles qui étaient plus, bon, de gauche, c'est peut-être un grand mot, mais souvent, c'était des gens qui étaient des radicaux, disons.
Plus libéraux.
Alors, c'est donc dans cet état d'esprit que Mitterrand est mobilisé, qui fait la guerre, il est prisonnier en Allemagne. il s'évade et à son retour en France, il va à Vichy et il publie un texte que vous citez l'un et l'autre sur son pèlerinage à Thuringe, dans lequel il parle, il définit sa génération en ces termes, les héritiers de 150 ans d'erreur. Et en tant que tel, nous n'étions pas responsables de ce qui arrivait. Donc voilà la leçon qu'il tire de la défaite. 150 ans d'erreur, ça remonte à la Révolution. Donc c'est en homme de droite qu'il accueille les événements, et c'est l'homme de droite en lui qui choisit, dans un premier temps, Pétain et Vichy. Michel Vinocq.
Oui, tout à fait. Il est, je dirais, dans la droite ligne de son éducation, de sa jeunesse. Il y a là quelque chose de troublant, parce que par la suite, il dira, quand je me suis évadé d'Allemagne, j'ai été tout de suite résistant. Non, il a été tout de suite un adhérent. Et non seulement, vous savez que les historiens de la période distinguent le maréchalisme du pétainisme. Alors le maréchalisme, c'est simplement l'adhésion par le désarroi de la défaite à un homme, le maréchal Pétain, l'ancien vainqueur de Verdun, comme on disait. Tandis que le pétainisme, ça va plus loin. C'est une adhésion aux idées du maréchal Pétain. Et ce sont des idées profondément anti-républicaines, voire toute la législation des premiers mois de Vichy. Et là, on se dit tout de même, il a adhéré à ça.
C'est-à-dire, c'est pas seulement la Troisième République qui était discréditée par la défaite, mais c'était la République en tant que telle.
Eh ben oui. Alors, il n'a jamais prononcé de mots, je dirais, d'hostilité à la République, à ma connaissance. Mais le texte que vous avez cité montre quand même à quel point il pouvait avoir de la sympathie pour, plus que ça, pour les idées de Pétain qui, elles, étaient franchement anti-républicaines.
Éric Roussel.
Oui, et dans la critique que fait Mitterrand dans ses lettres, notamment de la Révolution nationale, quand on le lit bien, on s'aperçoit qu'il reproche surtout à cette Révolution nationale d'être un peu trop douce. Et au fond, il veut la dépasser par le haut. Le passage que je citais tout à l'heure sur le service d'ordre légionnaire va dans ce sens. Le retour de Laval aussi, il trouve au fond qu'elle n'est pas assez pure et dure.
Mais en même temps, nul ne peut nier l'authenticité de sa conversion à la résistance.
Absolument.
Il a pris des risques. Alors comment expliquer ce passage? Il n'était pas maréchaliste, mais pétainiste. Il trouvait que le pétainisme était, Pétain même était, le régime était peut-être trop mou. Il parlait de 150 ans d'erreur et il choisit la résistance à un moment où on ne peut tout de même pas le taxer d'opportunisme.
Certainement.
Alors c'est quoi?
Il y a chez lui du patriotisme profondément ancré. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais, il faut nuancer le tableau noir, trop noir, n'est-ce pas ? Il a quand même quelques convictions. Et parmi ces convictions, certainement, cet amour de la patrie, qui a plusieurs aspects du reste. Il y a l'amour de la petite patrie, d'abord sa patrie charentaise, saintongeaise. Il y a, dans ses lettres, dans ses écrits, dans son journal, il y a des phrases extrêmement poétiques, n'est-ce pas, sur l'amour de la terre, un peu barésienne du reste, l'amour de la terre, et puis de Jarnac, de la Charente. Ça va se transposer plus tard dans le Nivernais, et on le verra toujours amoureux de la terre, je dirais terrienne, un peu à la Peggy, si vous voulez, de la terre
charnelle,
de la terre charnelle. Et ça, c'est la base, je dirais. Et ensuite, il y a chez lui, évidemment, un patriotisme de la France. N'oublions pas qu'il est féru d'histoire, et que tout à l'heure, nous parlions beaucoup de sa culture littéraire, mais il connaît aussi l'histoire, il s'y réfère constamment. Et donc, voilà une première explication. Par conséquent, en 42, 41, peut-être pouvait-il penser, comme beaucoup de Français du reste, que le maréchal Pétain était aussi un résistant, comme on a pu soutenir la thèse, n'est-ce pas, de l'épée et du bouclier, qu'il défendait, qu'il protégeait les Français, mais que, au fond, le moment venu, Pétain saura se soulever contre l'envahisseur, l'occupant, Et il y a eu, je pense, une prise de conscience. Alors en 42, n'oublions pas qu'en 42, les Américains et les Canadiens débarquent en Afrique du Nord. Que Vichy se retourne contre ceux qui tirent, par conséquent, sur ceux qui débarquent en Afrique du Nord. Bon, tous ces événements ont joué. La guerre n'est plus celle de 1940. L'Allemagne qui avait gagné, beaucoup de Français ont pensé que c'était une défaite définitive, que l'Angleterre serait battue très rapidement. En 1942, ce n'est plus du tout le cas. Et on va assister à un renversement de l'opinion qui a été très bien étudié par Pierre Laborie. Précisément, ces Français qui avaient adhéré à Pétain vont de plus en plus s'en éloigner et adhérer à la France libre.
Il suit le mouvement, en quelque sorte.
Ben, oui, ouais. Je crois qu'il y a, il y a ça.
Éric Roussel.
Et je crois qu'il faut souligner d'abord que c'est quand même, il est encore relativement jeune à cette époque-là, et il n'a pas une maturité complète. Ça, c'est évident. Il y a un certain narcissisme qui est flagrant. Mais pour le reste, on a l'impression qu'il va un peu dans tous les sens. Son engagement dans la résistance, oui, mais il est quand même assez, il me semble, c'est facile d'en parler aujourd'hui, il est quand même tardif, parce que vous faisiez allusion au débarquement en Afrique du Nord. Il y a quand même des gens qui, à partir de ce moment-là, se sont posés des questions. Or, lui, on a l'impression, non, que même cet événement, quand même, qui a été très important et qui montrait que les choses tournaient d'un certain côté, ne l'ont pas complètement ébranlé. Il continue pendant un certain temps à accorder foi à la Révolution nationale de Vichy, etc. Donc, au fond, le vrai tournant de Mitterrand, c'est, à mon avis, au printemps 1943, quoi, quand il prépare son départ pour l'Angleterre, qui aura lieu à l'automne. Et là, on voit qu'il se détache de... Enfin, il se détache. C'est compliqué, parce que il ne renie jamais, au fond, complètement ce qu'il a fait. D'ailleurs, il y a un parallélisme étonnant entre sa vie privée et sa vie publique. Il agit, en quelque sorte, il ajoute des strates. Bon, donc, mais il y a quelque chose, à mon avis, qui explique son évolution, et son évolution dans ce qu'on peut considérer le bon sens, et pour lui, c'est aussi, il a des réflexes, déjà d'homme de pouvoir. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, c'est le réseau de prisonniers qui va fonder. Alors, bon, on peut penser qu'il y a une dimension altruiste là-dedans, c'est vrai. Mais Mitterrand, et ça, on voit ça encore une fois dans sa correspondance, dans les témoignages qu'on a pu avoir sur sa captivité, ensuite sur ses débuts à Vichy, il a un ascendant sur ses contemporains. Et cet ascendant, il le ressent, il s'en enivre, même il en parle dans ses lettres. Et ce mouvement de prisonniers, on le voit très bien, il a très tôt l'idée que ça va lui donner finalement un instrument et un instrument qui va devenir très important, puisque, bon, anticipons un peu, ça lui donne à peu près 1 million de personnes à la fin de la guerre, et en caricaturant un peu, on peut dire que c'est ce qui va lui permettre de passer de l'état de chômeur qui était le sien quand il est arrivé à Vichy à état de ministre. C'est quand même un exploit absolument extraordinaire, et ça, je pense que cette chose a été très importante dans son évolution.
Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Vidal?
Oui, en gros, mais moi j'insisterai aussi sur les événements, sur le contexte. Parce que s'il n'y avait pas eu le débarquement de novembre 42, s'il n'y avait pas eu Stalingrad, si, etc., je ne crois pas que Mitterrand ait rejoint De Gaulle. D'ailleurs, c'était pas De Gaulle qui le rejoignait, puisque c'était Giraud, n'est-ce pas ?
Oui, il a été giraudiste, oui.
Alors, ce que vient de dire Éric Roussel est tout à fait juste sur et d'ailleurs très étonnant, n'est-ce pas, sur cette idée qu'il ne renie rien de ce qu'il a été. Rien. C'est-à-dire que son péténisme, finalement, il ne fait pas son mea culpa, il ne dit pas qu'il s'est trompé, pas du tout. Et même lorsqu'il y aura le procès du maréchal Pétain, il y va en journaliste, il assiste à ce procès. Et dans ses articles, il ne dit pratiquement aucun mal du maréchal Pétain. Il accable, au contraire, les dirigeants de la Troisième République, Daladier et les autres. Donc, il superpose, ce qui est difficile à comprendre, n'est-ce pas, son péténisme durable avec son engagement réel, dangereux, courageux, dans la résistance.
Il superpose, et en même temps, il change. Alors, nous sommes obligés d'avancer à grands pas. Il a été péténiste, il fait peut-être partie de ceux qu'on a appelés les vichisto-résistants.
Oui, tout à fait, il en est un prototype.
Il en est un prototype. Et puis, après la guerre, il devient ministre. Et peu à peu, ultime conversion, qui trouve son apothéose en 1981, François Mitterrand, homme de droite, ancien militant des Croix de Feu, ou du Parti Social Français, c'est comme ça que dit.
PSF.
Et voilà, du colonel de la Roque, devient le leader du Parti Socialiste, et c'est grâce à lui que la gauche revient au pouvoir. Alors comment expliquez-vous cette ultime métamorphose de François Mitterrand? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu de gauche et que même il a, assez longtemps, incarné la gauche, Michel Vinocq?
C'est insensible, cette évolution. D'abord, il est député en 1946 sur une profession de foi carrément de droite. C'est-à-dire trois grands partis, communistes, socialistes, démocrates, chrétiens, MRP. Lui, il les rejette et il est accueilli donc dans sa circonscription de la Nièvre comme un jeune représentant du conservatisme. Il est soutenu par les notables et quand on lit donc sa profession de foi, on s'aperçoit que il est absolument d'accord avec les conservateurs de l'époque. Hostile aux nationalisations, ce qui est amusant. Il est défenseur de l'école privée, enfin, etc. Cependant, ça ne l'empêche pas d'accepter, dans cette République dont il conteste absolument la Constitution, d'accepter un poste de ministre. Alors, passons sur les détails. Il devient le plus jeune ministre de France, n'est-ce pas, très rapidement, 47. Et je dirais qu'il y a un engrenage qui va l'entraîner petit à petit en raison de son ambition. Bon, la Constitution a été votée, il est dans la 4e République. Il fait déjà ce qu'il fera dans la 5e, c'est-à-dire qu'il est contre, mais au fond, il bénéficie de ces institutions. Et alors, il y a, pour moi, ce qui va être déterminant dans son passage à gauche, enfin, disons d'abord au centre-gauche, c'est le fait qu'il devient ministre de la France d'outre-mer. Et il n'est pas du tout anticolonialiste, il est le défenseur de l'Union française, mais il estime légitimement que la France ne gardera ce qui s'appelait jadis un empire, bon, l'Union française, que si l'on fait des réformes. Et à ce moment-là, il va se heurter au lobby colonial, colonialiste, qui est puissant en France, qu'il va retrouver au monde d'Algérie, etc., qui vont en faire, eux, un homme de gauche, et même un proche du Parti communiste. Et c'est ainsi que, peu à peu, il va prendre conscience, n'est-ce pas, qu'il est devenu un homme de gauche. Et en raison de son ambition même, n'est-ce pas, il a intérêt, puisque, bon, il va appartenir à des gouvernements qui s'appellent Mendès France, Guy Mollet, etc., parce qu'il sait très bien que pour devenir ce qu'il voudrait devenir le chef du gouvernement, il lui faut une majorité, et cette majorité, ça passe surtout, notamment, par le Parti Socialiste.
Éric Roussel.
Oui, je crois qu'il y a toujours chez lui ces deux plans. Il y a à la fois l'évolution de ses idées. On voit qu'au départ, il y a une lettre à son ami Georges Daillant, tout à fait à la fin de la guerre, qui montre une très grande incertitude, puisqu'il lui dit « j'étais assez proche des communistes », c'est d'ailleurs assez bizarre. J'ai failli me présenter sous l'étiquette indépendant, je pourrais aller au Parti Socialiste, mais ce sont des vieilles barbes.
La SFIO,
oui, il parle du MRP, enfin bon, bref, on sent une certaine confusion. Donc, mais ce qui le guide, c'est effectivement une ambition finalement qui se développe au bon sens du terme. Vous avez fait allusion à son passage au ministère de la France d'Outre-mer. C'est un épisode effectivement qui est très important dans sa carrière et qui permet de saisir au fond peut-être le vrai Mitterrand. Il commence à avoir des réflexes. C'est d'abord quelqu'un d'extrêmement intelligent qui voit bien l'évolution qui est en cours. Alors il n'est pas anticolonialiste au sens où on l'entendra par la suite, mais il est conscient de la nécessité de réformes dans un sens libéral. Il va favoriser l'émergence de gens comme Houphouët de Boigny, ou qui était considéré par les Français plutôt comme un communiste au départ, ou Senghor. Enfin bon, ensuite il y a participation au gouvernement Mendès France. Mais malgré tout, il y a toujours cette idée qu'il est, il est destiné au poste le plus élevé. Et c'est ça, à mon avis, qui l'amène, il faut quand même en parler, pendant l'épisode du gouvernement Guy Mollet, pendant lequel il est garde des Sceaux, à lui qui a aboli la peine de mort, il va...
Il va abolir
en 81 la peine de mort. Enfin, c'est Robert Badinter qui a été... c'est quand même lui qui au départ, a pris cette direction. Donc, en tant que garde des Sceaux, là, les archives sont absolument accablantes pour lui. Il va, il va être l'instrument de à peu près 50 condamnations à mort, 50 personnes.
Exécution.
Il me semble que quand on va à Alger.
Dans le cadre de la guerre d'Algérie.
Dans le cadre de la guerre d'Algérie, les rues du centre d'Alger portent le nom de beaucoup des victimes, des gens
qui ont été condamnés
à mort. Évidemment, dans le contentieux franco-algérien, a peut-être une certaine importance. Mais il y a ça, et puis, évidemment, il voit que le Parti socialiste peut lui donner, évidemment, la possibilité d'accomplir cette ambition. Et puis, il y a surtout, et ça, dès le début des années 60, il voit, et c'est là où il se distingue du reste de la gauche, que l'alliance avec le Parti communiste... Et quelque chose qu'il ne peut pas éviter. Il est très anticommuniste, en réalité, mais il fait ce pari qui va se révéler.
Il parle au moment de la fondation du Parti Socialiste et dans les années qui ont suivi de rupture avec le capitalisme. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, entre en vigueur un certain nombre de mesures très radical.
C'est-à-dire que ça a eu tout de même une contrepartie. Pour réduire le Parti communiste, au fond, il fallait le vider son programme de son contenu.
Donc il fallait faire
un programme très à gauche. Alors, puis il a peut-être fini, au fond, c'est quand même un homme de parole aussi. Il était emporté par une certaine phraséologie.
Il s'est peut-être convaincu lui-même. D'ailleurs, vous dites une chose très intéressante, Michel Vinocq. Parce que il impose des nationalisations à 100%, tout un programme contre l'avis d'un certain nombre de ses ministres, dont Michel Rocard, qui était dans un placard puisqu'il est ministre du plan, mais qui pouvait intervenir au Conseil des ministres, contre Jacques Delors, moins offensif, mais tout aussi opposé à cette politique. Et vous dites, en l'occurrence, celui qu'on surnomme le Florentin ne suit pas les leçons de Machiavel, l'auteur du Prince. Préconisait de suivre le cours des choses pour mieux les diriger. Mitterrand, lui, choisit de s'y heurter de front. Advienne que pourra. Mais ce qui est advenu, c'est que cette politique n'a pas marché, que la relance par la consommation, ça a fait augmenter les importations. Oui, c'était au bénéfice des entreprises étrangères et que donc, il a dû prendre, sans le dire, le tournant de la rigueur. Il n'empêche qu'il y a eu un moment, si vous voulez, d'intense activisme de gauche dans la politique de François Mitterrand.
Alors, je voudrais au passage très rapidement dire, parce que l'heure passe, que ça a été un grand stratège, Mitterrand. Il ne faut pas l'oublier, parce que quand il conçoit l'union de la gauche, ça voulait dire l'alliance avec les communistes, qui était complètement marginalisée. Mais nous étions pendant la guerre froide, ne l'oublions pas. Et il conçoit, contre De Gaulle, contre la Ve République, qu'une solution, c'est l'union de la gauche, c'est la seule façon d'arriver. Or, il a maintenu cette union de la gauche, cette idée de l'union, jusqu'au bout, y compris lorsque les communistes vont la quitter en 1977. Et j'ai cité Carl Schmitt qui dit qu'en politique, il fallait savoir désigner l'ennemi. Et je crois qu'il y a un tournant chez Mitterrand. Avant 58, au fond, il ne sait pas quel est l'ennemi, puisqu'il peut très bien être dans un gouvernement de droite comme celui de Laniel, que de gauche, n'est-ce pas ? Tandis que désormais, à partir de 58, l'ennemi, c'est De Gaulle, le gaullisme, la majorité gaulliste, et par conséquent, jusqu'au bout, il va faire en sorte de réunir toutes les composantes de l'ennemi à De Gaulle. Ça n'a pas été facile. Il a fallu du temps. Je dirais que la conjoncture internationale l'a servi, puisque à partir de 62, l'affaire des fusées a ouvert ce qu'on a appelé la période de la détente. Le Parti communiste devenait moins, par conséquent, redoutable. Et néanmoins, il lui a fallu beaucoup de constance, d'intelligence, de pugnacité pour arriver au bout. Et c'est par cette ce talent stratégique qu'il est arrivé en 81 à devenir président de la République.
Et devenir président de la République, il mène une politique très ancrée à gauche. Cette politique échoue. Il doit changer de cap. Et je trouve qu'il y a un phénomène sur lequel vous n'insistez pas beaucoup, ni l'un ni l'autre. C'est cette espèce d'ersatz idéologique que Mitterrand, avec, je crois, un certain cynisme, a su imposer, puisqu'il ne mène plus cette politique de gauche des débuts du septennat. D'abord, en effet, ça vous en parlez l'un et l'autre, il instille de la proportionnelle pour faire entrer le Front National au Parlement et diviser la droite, mais dans le même mouvement, il participe, il crée même SOS Racisme. Et SOS Racisme, c'est une manière de, si vous voulez, d'offrir un nouvel horizon à la gauche. On n'est plus dans la lutte de classe, mais on est dans l'opposition entre une France raciste et une France ouverte. On peut dire même qu'on y est encore, mais chez François Mitterrand, c'était une forme d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il inventait un nouveau combat parce que il avait épuisé en quelque sorte les ressources de l'ancien.
Oui, ça me paraît effectivement très très juste. Le virage de 81, faut pas oublier pour le comprendre que pour Mitterrand l'économie c'était vraiment quelque chose de tout à fait secondaire. Ça ne l'intéressait pas. Michel Rocard raconte que quand il était allé le voir pour lui expliquer que les nationalisations à 100% étaient inutiles, voire plus. Il lui a dit, écoutez, c'est bien possible. En fait, moi, j'ai été ministre de la 4e République. Je sais comment ces affaires-là se terminent. Il y aura une hausse de l'impôt sur les allumettes et puis on n'en parlera plus. Alors, ça a eu quand même des conséquences, même encore aujourd'hui. Les déficits qui ont été creusés à ce moment-là ne sont pas complètement oubliés. Mais, encore une fois, l'économie était quelque chose de secondaire. Mitterrand est un homme qui est plein de paradoxes. Il n'empêche qu'il semble avoir cru quand même profondément à ce programme de 81. Il a essayé de le... Puis il y avait une période d'un certain romantisme aussi. Et comme vous le dites, parce que c'était quelqu'un qui connaissait très bien la France, à la fois le terreau électoral et puis les évolutions en cours. Et je crois qu'il a tout de suite vu, d'une façon assez, j'allais dire, habile, la substitution qu'il pourrait y avoir, notamment du côté de SOS Racisme. Il a changé en quelque sorte un peu d'horizon.
Michel Vinocq.
Mitterrand n'a pas la culture socialiste. Le socialisme, ça lui est venu sur le tard. Alors, on peut dire que c'est une façon d'arriver au pouvoir, précisément. Il a instrumentalisé l'idéologie socialiste pour devenir le chef de l'Union de la Gauche, allié aux communistes. Dans un contexte, rappelons-nous toujours le contexte, n'est-ce pas? Le congrès d'Épinay est en 71, c'est-à-dire 3 ans après 68, 100 ans après la Commune de Paris, et que vous en souvenez sans doute, n'est-ce pas? À ce moment-là, le gauchisme est très puissant, et le gauchisme culturel, littéraire, on réédite, on réimprime, et Maspero et le libraire, n'est-ce pas, qu'il faut visiter pour acheter tous les classiques de la Révolution. C'est dans cette atmosphère aussi, n'est-ce pas, que le congrès d'Épinay a eu lieu. Donc, il fait son grand discours sur la rupture avec le socialisme. Avec le capitalisme, c'est un lapsus intéressant. Mais naturellement, jusqu'où va son socialisme? C'est là la question qu'on peut toujours se poser. Mais comme le mot est polysémique et comme il veut dire tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le socialisme, c'est radicalement, c'était évidemment l'anticapitalisme, mais ça peut être aussi une certaine forme de social-démocratie, etc. Mais lui va se dire socialiste jusqu'au bout. Il dit, je suis socialiste, je resterai socialiste encore après l'échec de 83, etc. Et alors, quand on lui demandait, mais alors qu'est-ce que c'est le socialisme? Il avait une phrase qui est simpliste, mais qui caractérise bien son l'important est que la propriété change de main. Oui. Voilà. La propriété change de main. Donc, alors ça voulait dire évidemment les nationalisations, notamment.
Oui, mais la propriété est maintenant dénationalisée depuis lors.
Alors, il a gardé, je dirais, cette posture jusqu'au bout. Je resterai socialiste. Et même, il dit à Michel Rocard, quand celui-ci est Premier ministre, qu'il n'en fait pas assez dans le social, etc. Mais d'un autre côté, on sent bien que ce n'est pas véritablement approfondi, ce n'est pas... Et du reste, il n'a aucune intention et il ne fera rien pour moderniser son parti, pour l'actualiser, etc. Non, je suis socialiste et jamais il ne dira que Épinay, c'est fini, c'est les autres qui vont le dire. Hein, mais lui ne le dira jamais.
Mais oui. Un dernier mot, Éric Gosselin.
Et le dernier paradoxe, c'est qu'il a fini, à mon avis, par trouver une sorte de point d'équilibre dans le modèle de ces républicains, de la Troisième République, pour lesquels il avait eu des mots si durs. Il avait, au fond, une pratique qui était un peu celle de beaucoup d'hommes de la Troisième République, c'est-à-dire un discours assez à gauche et une pratique centriste. C'est ça qui a caractérisé. Et ça venait peut-être, d'ailleurs, de son... Il a eu un grand-père qui était plus un peu en rupture avec
voilà.
La famille.
Donc, retour au point de départ. Merci Michel Vinocq, merci Éric Roussel. Je voudrais lire en guise d'épilogue quelques lignes de ma part de vérité qui, sans résumer François Mitterrand, donne peut-être la mesure du personnage. N'imaginez pas que ma vie soit remplie par la politique. Je la place à son rang qui n'est pas le premier. J'ai travaillé, rêvé, flâné, réappris à aimer les choses et les êtres. Je connais des houx dans la forêt des Landes qui donnent autant sa densité, et rien ne me parle mieux de l'esprit et de la matière que la lumière d'été à 6 heures de l'après-midi au travers d'un bois de chêne. J'ai voyagé aussi, la géographie est ma plus chère et ma plus vieille amie, avec la France en rose et l'Allemagne en vert des cartes de mon enfance. Je l'ai beaucoup fréquenté depuis. Je rappelle les titres de vos livres, Michel Vinocq, François Mitterrand, aux éditions Gallimard, Éric Roussel, François Mitterrand de l'intime au politique, chez Robert Laffont. Michel Vinocq, vous publiez également un journal politique 1958-1981 aux éditions Thierry Marchès. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Y a-t-il un malheur français ?» Mes invités seront Gilles Finkelstein et Marcel Gauchet. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Alison Ascrisi. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, le déclin français durable obsession avec Robert Franck, une rediffusion de 2014.